archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Le malaise dans le monde agricole qui a fait l'actualité de la semaine n'est pas un phénomène nouveau ni un phénomène typiquement français. À l'échelle mondiale, c'est la même chose. La condition des paysans est souvent difficile. La vente des produits qu'ils cultivent ne suffit pas à les faire vivre, et pourtant, leur rôle est essentiel, puisqu'ils sont en charge de nourrir la communauté humaine. Les crises dans le monde agricole peuvent provoquer une importante diminution de la production de denrées et, à l'extrême, des famines. Elles entraînent aussi parfois la pauvreté des paysans, cultivateurs indispensables pourtant à la survie humaine depuis la nuit des temps. L'archive que nous allons écouter traite de la situation alimentaire sur la planète à l'approche de l'an 2000. Écoutons ensemble ce reportage produit par Radio France Internationale. On se retrouve dans 20 minutes pour un résumé de la situation aujourd'hui.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bienvenue sur votre magazine de l'environnement, aujourd'hui consacré à la situation alimentaire mondiale. Le sommet mondial sur l'alimentation, organisé par la FAO, vient d'être reporté à l'année prochaine, pour des raisons, semble-t-il, liées au contexte international actuel, alors que la situation alimentaire mondiale reste toujours extrêmement grave et le bilan des efforts fournis par les différents États sont toujours très en dessous des objectifs qu'il aurait absolument fallu atteindre pour engager la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde. Pour comprendre cette situation alimentaire mondiale et ses mécanismes, Fréquence Terre reçoit Marcel Mazoyer, un professeur d'agriculture comparée à l'Institut national d'agronomie, également secrétaire général de l'Association française pour la FAO, qui nous fait part de son analyse, partagée par de nombreux experts internationaux.
La situation mondiale de l'alimentation est évidemment très mauvaise. Comme vous le savez, il y a 800 millions de personnes dans le monde qui sont sous-alimentées au point de manquer de calories et d'énergie pour travailler et vivre tous les jours. Il y en a 2 milliards qui subissent des carences en protéines, en fer, en iode, en vitamines diverses, qui sont également débilitantes puisqu'elles provoquent des insuffisances anatomiques, physiologiques, une fragilité aux maladies, etc., etc. Alors ça fait quand même des milliards de personnes qui sont en situation d'insuffisance alimentaire grave et quotidienne. Maintenant, naturellement, parmi les gens, les peuples, les régions du monde où c'est comme ça, il ne faut pas grand-chose pour que ça tourne vraiment à la catastrophe alimentaire, c'est-à-dire à la famine, et que les gens meurent en masse de faim. Il suffit d'une mauvaise récolte, il suffit d'une guerre, le gouvernement n'a pas eu les devises pour importer ce qu'il fallait, et alors, ça tourne à la famine.
Quelles sont les personnes qui sont touchées par cette situation alimentaire ?
Ça peut paraître paradoxal ou curieux, mais en fait, la très grande majorité des gens qui ont faim dans le monde, les trois quarts, sont pratiquement des paysans pauvres et démunis des pays en développement. Et pour le quart qui reste, c'est bien souvent des paysans qui ont quitté leur village parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils avaient faim, et ils ont pris la route des camps de réfugiés, la route des bidonvilles sous-équipés, sous-industrialisés, où le chômage, où règne le chômage et les bas salaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même encore la moitié de la population du monde qui vit dans l'agriculture et plutôt mal que bien de l'agriculture, et que c'est également la moitié de la population active du monde, c'est-à-dire 1 milliard. La population active agricole, c'est 1 300 000 000 d'actifs. Mais il faut savoir aussi que sur 1 300 000 000 d'actifs, il n'y a que 28 millions de tracteurs dans le monde. Il y a peut-être la moitié qui ont des semences sélectionnées, des engrais, des produits de traitement, qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la révolution verte. Puis il y en a une autre moitié, pas du tout. En fait, ils travaillent à la main, avec des bêches, des houes, des haches, des machettes. Ils n'ont jamais vu de semences sélectionnées. Ils n'ont jamais vu, vu peut-être, mais jamais pu acheter ni engrais, ni produits de traitement, ni race d'animaux, etc. Parmi ceux-là, il y a ceux qui sont privés de terre. Soit parce qu'il y a des grands domaines qui ont 1000, 2000, 3000, 4000 hectares comme en Amérique latine, et alors les paysans pauvres, ils ont un quart d'hectare, etc. Ces grands domaines qui ont marginalisé les paysans du cru en leur laissant même pas de quoi cultiver pour se nourrir, c'est évident qu'ils profitent aussi de la situation pour ensuite les payer avec un lance-pierre, c'est-à-dire à un dollar ou un demi-dollar par jour. Alors quand vous produisez 10 000 quintaux avec 5 000 francs de salaire pour produire 10 000 quintaux, si vous comptez combien ça fait par kilo de blé, j'avais fait le calcul, malheureusement c'est en dollars, mais ça faisait, je crois, 5 millièmes de dollars par kilo de blé, quoi. C'est-à-dire zéro. Même un paysan américain, un nord-américain, même un paysan européen, il ne peut pas tourner avec un prix du blé qui est de 50 ou 60 francs le quintal, parce que lui, il ne peut pas vivre avec un salaire de 1 dollar par jour. C'est impossible de vivre avec un salaire comme ça. Et donc, même l'agriculture américaine, même l'agriculture européenne, où on la protège des prix internationaux qui sont des prix complètement cassés, insupportables pour le reste du monde, ou alors il faut la subventionner, comme on le fait aujourd'hui. Et alors après, on dit on subventionne les agriculteurs. Mais au prix du marché international, 80% des agriculteurs, même des pays développés, ont un revenu nul ou négatif.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par marché international ?
C'est le marché des excédents des pays qui ont bénéficié de la révolution agricole, motorisation, etc., ou de la révolution verte, aussi bien aussi, et qui ont des productivités énormes, qui peuvent produire à relativement bas prix, et qui, par-dessus le marché, produisent des excédents qu'on ne peut pas manger dans leur pays, etc. C'est également les prix, les prix des pays développés comme les États-Unis ou l'Europe qui, avec des agricultures subventionnées qui leur permettent de vendre leurs produits moins chers sur le marché international. Ça veut dire que le marché international qui, avec le libre-échange, finalement tend à s'imposer à tous les pays du monde et à devenir le prix qu'on va payer aux producteurs de tous les pays du monde, mais c'est absolument meurtrier pour le demi-milliard de paysans qui travaillent à la main et qui produisent 10 quintaux. Dans les années 50, un paysan qui produisait 10 quintaux, s'il vendait un quintal, il obtenait à peu près 300 francs d'aujourd'hui. Dans les années 70, il obtenait à peu près 200 francs. Dans les années 80, il obtenait à peu près 100 francs. Et aujourd'hui, il obtient 50 ou 65 francs. C'est-à-dire que le prix qu'on lui donne pour son quintal de blé a été divisé par 2, par 3, par 4. Et s'il en produit 10, il faudrait qu'il vende toute sa récolte pour racheter des outils, la tôle pour son toit, ses habits. Et il lui reste quoi à manger, lui ? Et il a quel revenu quand on y réfléchit ? Si vous, à 50 francs le quintal, quelqu'un qui produit 10 quintaux, il a un revenu annuel de 500 francs. Est-ce qu'on peut faire vivre ces paysans avec 500 francs par an ? Donc, le libre-échange agricole international, c'est une machine à détruire la paysannerie du monde. Je dirais presque toutes les paysanneries du monde. Et ça ne peut conduire qu'à remplacer les paysanneries par des grands domaines à salariés qui seront dans la main des sociétés anonymes à irresponsabilité illimitée, dont tout le monde sait qu'on ne peut pas leur confier la sécurité alimentaire du monde, ni d'un point de vue quantitatif, ni d'un point de vue qualitatif. En imposant le prix des excédents à bas prix, à prix cassé du marché international à des paysans qui sont sous-équipés et peu productifs, on les condamne progressivement à une pauvreté de plus en plus grande qui va jusqu'à la faim. Et c'est pour ça que ce sont les producteurs agricoles qui sont aujourd'hui pauvres, qui sont aujourd'hui les plus sous-alimentés dans le monde. Et c'est eux qui alimentent un exode agricole, un chômage massif, et qui fabriquent tous les jours, de cette manière, la pauvreté urbaine, qui va, elle aussi, en grandissant. Donc ça sert aujourd'hui à rien d'empêcher les paysans de vivre de leur travail et de les condamner à l'exode. Ni en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique latine, ni en Europe. On n'a pas d'alternative autre que la pauvreté urbaine ou l'assistance sociale à leur offrir. Donc, je crois que c'est une mesure capitale à l'échelle du monde d'arrêter de casser la paysannerie par une politique d'échange et de prix qui est désastreuse et meurtrière pour fabriquer des chômeurs et des bas salaires dans les villes.
Et puis, au-delà des situations de crise alimentaire et d'extrême pauvreté, il y a le stade ultime de la famine.
La famine, évidemment, c'est une situation de sous-alimentation extrêmement aggravée, puisque non seulement on a faim tous les jours, non seulement on est débilité par la faim et on est sujet aux maladies, comme on l'a dit, etc., mais on meurt tout simplement de faim au bout d'un certain temps. La famine, c'est quand 10, 20, 30% de la population d'une région, d'un pays, va mourir tout simplement de faim. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement pas avoir 2100 ou 2300 calories, mais ils vont tomber à moins de 2000 calories, à 1800, à 1000, etc. Et là, on meurt de faim, massivement. C'est ça une famine. Alors, il faut savoir qu'une famine, ça ne peut pas arriver dans un pays qui est dans une situation alimentaire de très haut niveau et une situation agricole prospère, etc. Parce qu'avant de retomber à moins de 2000 calories, il y a un chemin à parcourir qui est énorme. Alors que quand dans un pays, la production agricole, des paysans, la situation alimentaire est déjà tout juste à la limite de ce qu'il faut pour survivre, évidemment, il ne faut pas un gros problème pour eux. Il pleut pas assez, il pleut trop, il y a les criquets, il y a une maladie du manioc ou du mil, ou alors il y a un passage de troupes, ou alors le gouvernement n'a pas pu importer le petit supplément qu'il fallait pour boucler le budget alimentaire du pays. Et alors à ce moment-là, c'est vrai que les pauvres, en général les pauvres des campagnes avant même ceux des villes, c'est vrai que les pauvres, ils passent de la sous-alimentation, de la faim quotidienne, ils passent de la faim quotidienne à la faim violente au point d'en mourir. La famine, c'est l'accident supplémentaire qui frappe ceux qui sont déjà pauvres et sous-alimentés. Une fois que la famine est installée, il faut tout faire pour empêcher les gens de mourir de faim. Mais il est bien clair, par contre, que cette aide alimentaire qui est distribuée à très bas prix, il ne faut pas installer un système de ce genre en permanence dans les pays pauvres du Sud, parce que ça coupe la route de toute espèce de débouché rentable pour les paysans de ces pays. On appauvrit les paysans et on fabrique des candidats à l'aide alimentaire qui ne vont que se multiplier. On n'en sortira jamais avec ce système. Ce qui est important dans les pays du Sud, c'est d'avoir des prix, dans tous les pays du monde, c'est d'avoir des prix agricoles qui permettent aux paysans, pauvres ou riches, mais en tout cas ce qui permet à tous les paysans de vivre de leur travail, de vivre au sens de survivre au minimum de leur travail, et si possible d'investir et de progresser pour participer à cet enjeu fantastique qui est quand même de nourrir l'humanité au XXIe siècle.
Le Sahel, qui a connu de graves famines et qui connaît dans certaines zones, à certaines époques de l'année, des situations de crise alimentaire dues à des productions déficitaires de céréales, par exemple, connaît aussi, dans le même temps, à quelques kilomètres de là, des productions excédentaires qui ne trouvent pas acquéreur. Regard sahélien de Mohamed Aïdara, le directeur d'Afrique verte au Mali.
Certains pensaient que le Sahel, ou l'Afrique de façon générale, devrait être un continent où il fallait plutôt développer l'agriculture européenne et déverser sur le continent les surplus de production, parce qu'il y avait des crises alimentaires. alors qu'ils oublient que cette aide alimentaire peut avoir des effets contraires. Ça veut dire qu'à terme, ça allait étouffer notre propre agriculture. Donc, dans l'idée de beaucoup, rien n'est possible au Sahel, par exemple. Ce qui est faux au Sahel, il y a des zones de forte production, mais tous les problèmes, c'est comment valoriser cette production. Et c'est à ça qu'il faudrait travailler. Maintenant, le problème alimentaire, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des zones chroniquement déficitaires, sur le désert, le plein désert. À la limite, on pourrait dire, mais pourquoi ces gens-là ne quittent pas leur terroir pour venir au sud et faire et puis résoudre leurs problèmes alimentaires? Mais à mon avis, c'est mal poser le problème. Le problème alimentaire n'est pas forcément une question de se déplacer ou de chacun est lié à son terroir, à sa culture, parce qu'on a pris des habitudes. Et pourquoi on veut forcément que les gens quittent ces zones-là pour aller dans d'autres zones? Et ces zones dites déficitaires, il y a aussi d'autres activités. On a vu que, par exemple, au nord du Mali, c'est des grands éleveurs. C'est des gens qui font de grands élevages depuis des années. Et avec ça, ils peuvent avoir de l'argent. Mais une fois qu'on a l'argent, on a besoin aussi de manger. C'est à partir de ce moment que nous, on a dit qu'il faut créer des mécanismes de transfert d'une zone à l'autre. Et avec leur argent, comment trouver des céréales de qualité au lieu qu'on vienne déverser sur eux des productions venant de l'Europe? Pourquoi ne pas les orienter vers nos propres productions pour permettre aux paysans du Sud d'écouler le plus facilement leur production? C'est vrai qu'il y a des choses à prendre en Europe, tout comme l'Europe a des choses à prendre chez nous. Et nous, quand on a visité les coopératives agricoles en Europe et autres, on s'est rendu compte que chez nous, on a certainement besoin d'un modèle d'organisation. Mais en fonction de nos propres réalités, comment faire des stratégies pour aboutir à une bonne organisation? On peut prendre quelque chose avec l'Europe. Mais cela dit, le développement tel que nous voyons aujourd'hui en Europe, je ne pense pas que cela soit profitable à l'Afrique. On a besoin, nous, de notre propre développement en fonction de nos réalités, en fonction de nos exigences.
Perspectives et solutions pour conclure de Marcel Mazoyer.
Pour sortir du jeu de massacre dans lequel on s'installe allègrement depuis quelques dizaines d'années, il faut se battre pour qu'il y ait une réforme agraire qui redistribue la terre aux paysans sans terre, aux paysans pauvres. C'est pas dans tous les pays du monde que c'est comme ça, mais il y a une bonne partie des pays d'Amérique latine où c'est indispensable de faire la réforme agraire. Il y a le Zimbabwe où, bon... qu'on le veuille ou non, il faut faire la réforme agraire. Les paysans africains sans terre ont besoin. En Afrique du Sud, il faut faire la réforme agraire. Dans les anciens pays communistes d'Europe, l'Ukraine, la Russie d'Europe, les terres des sovkhoz et des kolkhoz n'ont pas été redistribuées aux paysans et on ne peut pas continuer de les cultiver comme avant. Et il faut absolument éviter qu'elles tombent dans les mains de néo-latifundistes et qu'on fabrique aux portes de l'Europe un latifundisme comme celui qui existe en Amérique latine, qui est une cause de misère paysanne, de sous-alimentation chronique permanente, et qui sont capables de produire avec des salaires dérisoires des produits agricoles à des prix que aucun paysan du monde ne pourra supporter. Non pas parce que les grands domaines sont plus efficaces que les paysans, mais parce que quand les grands domaines occupent le terrain, eh bien les gens n'ont pas de travail et ils sont obligés de travailler pour rien, 500 francs par an, par mois, voire moins.
Est-ce que c'est une analyse qui est partagée actuellement?
C'est clair qu'à la FAO, tout le monde sait que la réforme agraire est une nécessité. Permettre à tous les paysans du monde de vivre de leur travail, on ne peut pas imposer à aucun pays du monde, je pense, ni aux Européens, ni aux Américains, ni aux paysans d'Afrique ou d'ailleurs, on ne peut pas leur imposer le libre-échange agricole, c'est-à-dire un libre-échange qui est basé sur des prix qui sont inférieurs au prix de revient de tous les paysans du monde. Des prix qui ne sont avantageux que pour une infime minorité d'agriculteurs dans le monde, qui sont des très très grands domaines à salariés, avec des salariés payés avec un lance-pierre, quoi. Alors ça, c'est impossible. Le libre-échange agricole, c'est la machine à casser la paysannerie du monde. C'est une machine à casser les prix agricoles, ce qui est, permet bien entendu au commerce et à l'industrie agroalimentaire de maximiser ses bénéfices. Mais je pense que c'est même pas seulement ça, mais ça permet aussi partout dans le monde de maximiser l'exode, de minimiser les salaires et d'avoir aux quatre coins du monde une main-d'œuvre disponible, taillable et corvéable à merci pour des salaires, je vous dis, de l'ordre de 1 dollar par jour. Ce qui permet aux capitaux qui en ont les moyens de délocaliser leurs usines et donc de fabriquer à l'autre bout du monde des produits qui sont aussi fabriqués avec des salaires presque nuls, ce qui fait qu'on continue de produire la même chose mais sans distribuer de salaire, ce qui fait que la difficulté de vendre les produits devient... La misère du monde est telle que plus personne ne peut plus vendre leurs produits et qu'il leur reste plus qu'une solution, c'est la spéculation et les activités presque illicites. Il y a quand même une partie du capital international qui est mafieux.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions ?
Moi, je pense qu'il y a des solutions. On peut organiser des marchés communs agricoles à l'intérieur desquels il y a un relatif libre-échange, hein ? Il ne faut pas être contre tous les échanges, mais on protège ces pays-là, ces paysans-là, des prix internationaux qui sont absolument insupportables et meurtriers. Donc, ce n'est pas des choses insensées. Deuxièmement, il est clair que il faut, si on protège les paysans des importations à trop bas prix, en Afrique, en France, aux États-Unis, pourquoi pas, il faut aussi que quand ils ont des choses à exporter, qui est le coton, l'arachide, le café, le cacao, il faut aussi leur acheter ça à un prix qui leur permette de vivre de leur travail, ce qui n'est pas du tout non plus le prix international actuel. Vous savez, les fluctuations de prix sur le marché international, quelquefois, elles font beaucoup plus que doubler ou tripler le prix du café, du cacao ou de l'arachide. On peut bien payer de manière permanente et stable, avoir des accords produit par produit, qui sont des accords qui définissent les quantités, parce que c'est vrai que si on met des prix élevés, on risque d'avoir aussi un excès d'offres, des surproductions, comme on dit. Mais ça, on peut le réguler en disant, l'Afrique de l'Ouest, on vous achètera telle quantité, répartie pour chaque pays, ça fera tant, tant et tant, mais on vous le payera à un prix qui est équitable. Un prix équitable, c'est pas quelque chose de non défini, c'est quelque chose de très clair, c'est quelque chose qui permet à ceux qui produisent de vivre de leur travail, de pas être candidat à l'exode, de pas être candidat au chômage, de pas être candidat à la faim dans le pire des cas. C'est ça, des prix équitables. Sinon, on va avoir la moitié des territoires, les régions difficiles qui vont être abandonnées. Sinon, on va avoir la moitié des paysans qui vont vouloir quand même consommer, mais qui vont être dans les villes, mais qui ne seront plus dans les campagnes pour produire. On n'aura jamais une sécurité alimentaire pour 10 milliards d'hommes. On n'aura jamais une sécurité sanitaire des aliments. On n'aura jamais la qualité des aliments qu'on veut si on ne paye pas tout ce temps qu'on est, tous les consommateurs du monde, si on ne paye pas les produits agricoles à un prix équitable permettant à tous les paysans de vivre de leur travail, de toutes les régions. Pas un hectare, pas un paysan dans le monde ne doit manquer à la possibilité de continuer de produire pour nourrir l'humanité. Sinon, on nourrira pas l'humanité.
Ainsi se termine ce regard sur la situation alimentaire mondiale, un Fréquence Terre d'Arnaud Jouve, mixé par Assia Ralid, sur une réalisation de Fadi Matar. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en novembre 1999. Globalement, les chiffres montrent que la situation alimentaire mondiale s'est améliorée depuis cette époque, en termes en tout cas de disponibilité de nourriture. Mais les progrès sur la réduction de la faim ont été lents et ont même tendance à s'inverser ces dernières années. Il y a eu le Covid, les conflits, le climat, les crises économiques qui ont ralenti et parfois renversé les avancées. Situation d'autant plus préoccupante que l'administration Trump a coupé l'essentiel des financements aux organismes d'aide alimentaire et que les effets commencent à se faire sentir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez, je vous le rappelle, la retrouver sur notre site alternantefm.fr. Et pour finir en musique aujourd'hui, une archive de 1985, un collectif baptisé Les Chanteurs Sans Frontières qui interprète une chanson en soutien à l'Éthiopie. Une chanson composée par Renaud qui a pour titre justement Éthiopie. À la semaine prochaine.
Ils n'ont jamais vu la pluie, ils ne savent même plus sourire, il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie embarqués sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame attendent le vent. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Mais à chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident,
notre ciel devient plus sombre et notre avenir moins grand.
Sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre.
Loin des cœurs et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux, pour ne plus fermer les yeux, c'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu.
Donnons-leur des lendemains en échange de rien.
Chaque jour, chaque seconde, faisons taire le silence.